Vous écoutez
RMC.
Merci d'être avec nous sur RMC à 2h53. Alors là, on est à la limite, Elton, des couche-tard et des leftos.
Exactement, on est dans la zone grise.
Ouais, exactement. Là, on commence à faire la bascule. Hein. Écoutez, bonne nuit en tous les cas. Bon réveil aussi. On est ensemble sur RMC jusqu'à la fin de ce match entre les États-Unis et la Belgique. Mais match qui a lieu à Seattle, côte ouest. Et la direction, la côte est, à Boston pour retrouver nos envoyés spéciaux au plus près de l'équipe de France. Et c'est Valentin Jamin qui est avec nous. Salut Valentin.
Salut les amis, bonsoir à toutes et à tous. Enfin, bonne nuit.
Salut Valentin.
Oui, bonne nuit. Bah, toi aussi, ça commence à être la nuit. Hein. 21h, pratiquement 21h à Boston. Hein.
C'est ça, tout à fait. 6h de moins, donc on est encore en mode soirée là.
On va s'intéresser à notre équipe de France. Nous sommes à quelques jours d'affronter le Maroc. Ce sera jeudi à 22h, deux jours, hein, puisqu'on est mardi en France. Vous êtes encore lundi à Boston. Ouais. Bon, les nouvelles de notre équipe de France, vous avez pu voir un entraînement, on va dire, assez léger. Et puis, Guy Stéphan était en conférence de presse.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu la nouveauté depuis que nous, on est arrivés. C'est-à-dire que deux jours après le match, les titulaires ne se sont quasiment pas entraînés. Souvent, après la rencontre, le jour d'après, ils venaient faire une séance en salle et puis on les voyait pas. Mais là, deux jours après, même chose, les titulaires donc du match face au Paraguay, ils ont couru avec le préparateur physique Cyril Moine, une série de 30-30, donc un petit peu de fractionné, et puis tout le monde derrière est rentré travailler en salle. Donc on est quand même en mode récupération, alors qu'on était donc à J-3 du match contre le Maroc. On voit bien là, on sent bien que on gère les organismes du côté du staff, parce que il avait fait très chaud contre le Paraguay, il y avait eu des coups, etc. Et donc les remplaçants, ils sont restés pour la séance, ils ont fait du tennis ballon. Donc c'était très ludique, très souriant, une séance assez courte et assez légère. À retenir, Aurélien Tchouaméni ne s'est pas présenté. Nous dit on peut courir, on va dire, il peut reprendre la course, mais franchement ça paraît juste de l'imaginer jouer contre le Maroc. On en saura plus demain. Sa blessure évolue correctement, mais ça va être juste. Et puis on n'a pas non plus vu Rabiot, ni Upamecano, ni William Saliba, qui est toujours gêné au dos et qui serre les dents. Donc des garçons préservés, il n'y a pas d'inquiétude, mais ça va dans la logique de gestion dont je vous parlais. Demain, il y aura un entraînement à huis clos. On y verra un peu plus clair sur les états de forme de chacun.
Bon, c'est alors on a toujours des joueurs ménagers, donc on va pas tout de suite paniquer. Mais c'est vrai que Tchouaméni, on se dit, on a certes Manu Koné, Elton, mais Aurélien Tchouaméni, c'est peut-être le profil qu'il nous faut pour jouer ce Maroc-là.
Ah oui, mais totalement. Moi, plus ça va, moi, ça me pose problème le fait de pas avoir un Aurélien Tchouaméni qui soit fit et qui soit apte pour attaquer le match contre le Maroc sur un quart de finale. Parce que déjà, même face au Paraguay, il a manqué. Et donc, aujourd'hui, on a envie de se dire qu'Aurélien Tchouaméni, qui réalise une belle Coupe du Monde pour l'instant, on a quand même envie de le voir sur le terrain face au Maroc, où l'un des points forts de cette sélection, bah, c'est son milieu de terrain.
Qui est très technique, évidemment, avec Elaine Aoui, avec
Boadi, avec Ounaï. Donc clairement, ça va être une bataille. On a besoin d'avoir Aurélien Tchouaméni, qui a l'expérience déjà de cette compétition, de la phase éliminatoire, et qui est clairement sur un duo de très grande qualité avec Adrien Rabiot. Alors que forcément, moi, au départ, avant cette Coupe du Monde, j'avais pas forcément la vision. Je me disais qu'il me manquait quelque chose. Mais sur ces premiers matchs, ils m'ont quand même rassuré.
Bon, Guy Stéphan était en... Oui, vas-y Aurélien.
Il y a juste quelque chose à prendre en compte sur Koné, qui sera sûrement titulaire. C'est qu'en plus, il a pris jaune contre le Paraguay. Et donc, oui, il y a quand même la petite épée de Damoclès en disant « Bon, bah faut pas que je prenne un deuxième jaune parce que je suis potentiellement suspendu pour la demi-finale. » Donc, c'est vrai que là, au milieu de terrain, il y a questionnement. Il faudra aussi surveiller ça du côté de Manu.
Oui, mais peut-être que Emmanuel Macron va appeler Gianni Infantino. Et que ce soit, je crois, il y a Barcola aussi, Michael Olise,
oui.
Sous le coup d'une suspension. Donc, on peut se rassurer là-dessus. Donc, Guy Stéphan était en conférence de presse. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de la fameuse sénatrice paraguayenne qui a tout simplement insulté, et le mot est faible, Kylian Mbappé? Est-ce que voilà, c'est venu et ça pollue un petit peu, sans que ça perturbe, mais ça vient un petit peu polluer l'atmosphère autour des Bleus, cet épisode et ce dérapage?
Honnêtement, pollué non. On rappelle hein, donc qu'une sénatrice paraguayenne a eu des propos odieux et ultra racistes envers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a répondu notamment sur les réseaux sociaux. La Fédération française s'est saisie de l'affaire, a répondu sur les réseaux sociaux, a même engagé des actions en justice. Et Guy Stéphan, lui, effectivement, a été questionné sur ce sujet en conférence de presse. Il a été assez succinct en disant en trois mots: c'est indigne, c'est abject, c'est scandaleux. Et derrière, il a un petit peu développé. Évidemment, tout le monde est très choqué, tout le monde est outré du côté des Bleus, du côté de la Fédération française, mais on n'en a pas fait un sujet majeur aussi, parce que donner de l'importance à ces gens-là, pas sûr que ce soit très intéressant. Mais évidemment que le sujet est très important, évidemment que ça a été traité. Au moment où il est venu nous voir, Stéphane a dit qu'il n'avait pas pu en parler avec Kylian Mbappé parce que c'était tout chaud, c'était dans l'après-midi ici. Mais c'est l'indignation, évidemment, le premier propos qui revient quand on parle de ce qu'on a entendu et ce qu'on a lu, bien sûr.
Voilà, elle a dit à propos de Kylian Mbappé, cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco. D'ailleurs, je crois que le gouvernement du Paraguay s'est tout de suite désolidarisé. Enfin, et puis Kylian Mbappé a répondu sur ses réseaux: vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde. Bon, évidemment, on s'en serait bien passé de cet épisode-là, mais il y a quand même une réaction. Philippe Diallo, Elton a réagi, tout le monde, j'allais dire, est un peu à la hauteur de la bassesse et de la logorée verbale de cette personne.
Il y a eu la réaction de Philippe Diallo, il y a eu la réaction derrière de la foulée du président Emmanuel Macron. Ce qui m'a intéressé, c'est la réaction du gouvernement de la République de Paraguay, qui s'est désolidarisé face à des propos racistes, abjects et odieux d'une personne qui ne mérite même pas d'être mentionnée, parce que clairement, comment à partir d'un match de football, on peut laisser libre cours à des choses qui sont ancrées en elle, notamment sur la manière de voir des personnes noires ou métissées dans le cas d'Akiel Mbappé. C'est clairement scandaleux.
Et on espère qu'elle va tout simplement démissionner et quitter la vie publique paraguayenne. Effectivement, le Paraguay mérite mieux. Puisqu'on parle de l'équipe de France, alors on parlait des milieux de terrain à l'instant, Elton et Valentin. Mais est-ce que les latéraux sont pas la clé? Parce que quand on voit, c'est peut-être le seul poste que l'on peut envier aux Marocains, quand on voit Mazraoui et Hakimi, non?
Oui, très clairement, parce qu'on parle de latéraux qui sont évidemment forts, qui sont reconnus au niveau international. Achraf Hakimi, double champion d'Europe avec le PSG. Mazraoui qui a une carrière un peu plus compliquée, mais ça reste le latéral du côté de Manchester United, après avoir été au Bayern et du côté de l'Ajax. Mais moi, j'ai le sentiment, en fait, en regardant les matchs, Lucas Digne, pour moi, a été plutôt convaincant contre le Paraguay. Et il y a la question Jules Koundé, que moi, j'avais aimé contre la Suède, où, par rapport à cette équipe de France, c'est pas encore des dangers, des bombes à retardement. Ça reste des joueurs qui, pour moi, pour l'instant, sont encore bons, sont encore performants, et que évidemment il y a une marge de progression, mais que dans le match face au Maroc et face aux latéraux, ils peuvent tenir la comparaison.
Guy Stéphane, Valentin, vous l'avez interrogé, il a déjà commencé évidemment le travail d'analyse de cette équipe du Maroc.
D'abord, ce sera une opposition complètement différente de ce qu'on vient d'avoir. L'équipe de Maroc qu'on a visionnée ce matin avec tout le staff technique et les observateurs. C'est une équipe qui est bien organisée, bien structurée, une équipe qui a une certaine solidité et puis surtout une équipe qui est très bonne en transition, qui a marqué beaucoup de buts, avec des atouts aussi individuel, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Nous, de notre côté, il faudra qu'on ait d'abord bien récupéré. Donc voilà, une équipe du Maroc qui était demi-finaliste, on le sait, du dernier mondial, qui était finaliste de la dernière CAN. C'est une équipe de qualité, indiscutablement.
Évidemment, on se méfie de tous les adversaires, Valentin, mais on sent que c'est quand même un sacré morceau, ce Maroc. Il est plus fort qu'en 2022. On pourrait arguer aussi que l'équipe de France est plus forte qu'en 2022 aussi, mais ouais, ce Maroc-là, ça va pas être cadeau. On le sent dans la concentration de l'équipe de France que il y a clairement pas, et de toute façon, ça a toujours été le discours très humble et très posé du sélectionneur et de son adjoint Valentin, mais on veut pas du tout aller chercher le complexe de supériorité, hein.
Non, et puis il y a un step aussi qui est passé, il faut le dire, sur la qualité de l'adversaire. La phase de poule a été traversée en mettant 3 buts à tout le monde. La Suède aussi en 16e contre le Paraguay, même si ça a été dur, tu étais au-dessus au niveau du jeu. Là, le Maroc, et en plus c'est pas du tout la même équipe qu'en 2022 où le Maroc était la surprise, avait évidemment déjà réussi sa Coupe du Monde. Là, le Maroc est là en disant non, nous on est quart de finaliste parce qu'on a notre place, et le Maroc vise ouvertement presque, d'aller en finale, de faire plus qu'en 2022, une équipe qui a beaucoup progressé, capitaliser sur justement 2022, parce que depuis ça a fait finale de la CAN, ils n'ont plus perdu depuis janvier 2024. Il y a une politique très, j'allais dire, agressive et efficace sur les binationaux, avec Ayoub Bouadi notamment qui en est le symbole. Donc en fait, c'est une sélection, une nation qui a énormément capitalisé sur ce qui s'est passé en 2022, qui était déjà le fruit d'un travail de longue date avec des académies, enfin bref, beaucoup de moyens. Et oui, on peut vous dire qu'au niveau de la Fédé et du staff surtout, on prend cette sélection très au sérieux. Oui, la France sur le papier, le fameux, est favorite, mais on s'attend à se faire bouger, on s'attend à se faire embêter, à être plus en difficulté que jamais depuis le début de la Coupe du Monde. Et donc, il y a beaucoup de travail vidéo, nous a-t-on dit, qui va être fait autour du Maroc, et beaucoup de travail de renseignement aussi individuel, parce que certains supporters disaient la Coupe du Monde commence vraiment maintenant. C'est pas le cas, mais en tout cas, on passe encore un step.
Et Ayoub Bouadi avait été évidemment un sujet lors de la conférence de Guy Stéphan, né à Senlis. Il a fait les équipes de France jeunes, internationales et sports français, mais qui a choisi le Maroc, et l'adjoint de Didier Deschamps a répondu aux questions.
Évidemment que Bouadi, on le connaît, c'est un pur produit de la formation française. Il a fait toutes les équipes de jeunes. Il est né dans l'Oise. Il a fait toute son adolescence à Creil. Il est parti à Lille après. Après, il a fait un choix à un moment donné de sa carrière, et on va pas le blâmer pour ça. Bien au contraire, il a fait un choix. On le respecte, son choix. C'est un bon joueur. C'est même un très bon joueur. Et comme beaucoup d'autres joueurs, il a choisi une autre nationalité sportive. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois non plus, je crois. Il se trouve que dans ce secteur de jeu, on est assez fourni. C'est un problème de qualité, de quantité, mais ça reste un bon joueur, voire un très bon joueur.
Tu souscris à ces propos, Elton, avec la position de Didier Deschamps, c'est « je ne veux pas bloquer un joueur ».
Exactement, il a toujours dit ça. S'il prend un joueur, c'est beaucoup plus par conviction qu'il peut apporter sur le court terme. On a un précédent qui est historique, c'est Lucas Hernandez en 2018, qui était aussi courtisé par la sélection espagnole. Il l'avait sélectionné à l'occasion du rassemblement du mois de mars 2018 face à la Colombie, et derrière il avait été champion du monde en étant dans le 11 de départ. Donc clairement, on sait que ça va être de plus en plus un enjeu, cette notion de double nationalité qui fait que il peut y avoir deux nationalités sportives qui se font face, et qu'aujourd'hui il n'y a pas seulement l'équipe de France qui peut en profiter, mais d'autres nations également.
Et parfois ça peut nous sourire, alors même s'il a fait les équipes de France jeunes, mais Michael Olysée.
Parce que je parlais de Lucas Hernandez qui était l'exemple le plus prononcé par rapport à la Coupe du Monde 2018, mais il y a Michael Olysée très récemment.
Merci Valentin.
Ouais, je vous invite et j'invite tous nos auditeurs à jeter un œil à rmcsport.fr, parce qu'on va publier avec Fabrice Hawkins un article. Sachez que il y a eu un petit coup de fil notamment de Zizou qui a quand même tenté de retenir Bouadi. Donc plein de petites infos sur ce dossier bientôt. Merci à vous.
C'est l'art du teasing. Ouais. Bravo Valentin. Franchement là, à 3h06 du matin, on a envie de, on va pas se coucher après Égypte Belgique, après États-Unis Belgique. L'Égypte, ça sera demain face à l'Argentine.
Demain ou plutôt aujourd'hui.
Oui, voilà. Aujourd'hui, mais oui, 3h du matin. Allez, on revient dans un instant avec Elton Mokolo. On va retrouver Aurélien Tiersin, la deuxième mi-temps d'États-Unis Belgique. 2-1 pour la Belgique avec le doublé de Charles de Cattler. Et cette deuxième mi-temps à suivre en direct et en intégralité sur RMC. On est là et on revient dans un instant.